autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Nous sommes en direct également avec Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Mathias Germain de La Recherche, bonjour Mathias.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie, bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Et bienvenue au club pour mettre en question aujourd'hui le fonctionnement de notre cerveau, capable de nous faire avaler n'importe quoi, pour le meilleur, l'effet placebo et son action réelle sur la douleur, comme pour le pire, la culture du viol et le fait de croire que les victimes sont consentantes. Quand notre cerveau nous joue de méchants tours, nous nous interrogerons aussi sur les défis de la recherche, sur la maladie d'Alzheimer, et nous reviendrons sur la menace d'un volcan souterrain très actif qui vient de surgir sous nos yeux ou presque dans l'archipel des Comores à Mayotte. Une éruption sous-marine qui interroge les chercheurs autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. Avant de partir pour Mayotte, on va s'arrêter sur l'image étonnante de ces biberons préhistoriques retrouvés dans des tombes d'enfants datant de plus de 3000 ans. L'étude publiée dans la prestigieuse revue Nature montre que ces récipients au bec troué ont contenu des traces de lait animal. Ils les ont même fait, les chercheurs, tester à de très jeunes enfants et ça fonctionne vraiment comme un biberon préhistorique assez étonnant tout de même. Qui veut réagir? Carole Châtelain? Cécile Estienne? Cécile.
Oui. c'est assez amusant. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver les biberons en question, on trouve les images tout de suite. Et effectivement, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais récemment, je me posais la question pour des jeunes femmes plus proches de moi qui vont avoir des bébés. Et je me disais aujourd'hui qu'on cherche absolument à se débarrasser du plastique le plus possible pour des raisons environnementales. Comment on ferait aujourd'hui avec les biberons? En fait, ça a l'air de marcher. C'est petits pots avec...
Ils sont beaux,
je m'étais posé des questions très compliquées sur la tétine et tout ça, mais en fait, je pense que ça peut marcher.
Il suffit d'un petit trou. Voilà. Et voilà, une sorte de poterie.
Et plus scientifiquement, effectivement, c'est intéressant de voir que à cette époque-là, donc, le fait qu'il y ait eu des biberons au moment où, effectivement, les hommes ont commencé aussi à faire de l'élevage, hein, parce que sinon, on ne va pas les traire, les femelles, au roc dans la pampa, montre que peut-être que ça a aidé à faire baisser la mortalité infantile ou a permis aux femmes d'avoir plus d'enfants. Il y a plein d'hypothèses, en tout cas, que ça ouvre et qu'il faudrait regarder.
Ça ouvre plein d'hypothèses et puis ça répond aussi à des énigmes, parce que je crois que des poteries de ce genre-là, trouvées dans des tombes d'enfants, ils en ont trouvé pas mal, sans savoir à quoi ça servait avant, Carole.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette discipline est en plein essor. S'intéresser à l'enfance, que ce soit à l'enfance préhistorique ou dans les civilisations antiques. Et ce qui est intéressant là, c'est effectivement les techniques déployées pour aller analyser les raclures des fonds de biberons.
Oui, mais il faut trouver des traces de lait.
Mais au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ces sociétés affranchissaient les femmes de leur rôle de femmes allaitantes, que dès les temps les plus anciens, il y avait une prise en charge sans doute sociétale des enfants, c'est-à-dire que c'était peut-être le groupe qui était aussi chargé de les nourrir. Donc le fait, je dis ça à bon escient pour certaines thèses qui ont cours actuellement, il n'y a pas une obligation absolue aux femmes d'allaiter leur enfant et d'y être soumise.
Même autrefois, même dans les temps préhistoriques, ils ont d'ailleurs fait essayer ces biberons, ces poteries de terre cuite à des vrais bébés d'aujourd'hui qui les tiennent bien, qui s'amusent avec.
Effectivement, et puis en plus on voit très bien que ces poteries, elles sont faites, certaines d'entre elles, sous forme de petits animaux et tout. Donc c'est une évidence que c'était pour des enfants, que c'était utilisé en tant que tel. Après, il est difficile de savoir quel était vraiment le rôle, parce qu'on sait que du lait animal, à cette époque-là, il n'était peut-être pas traité, il n'était pas pasteurisé.
Ça pouvait être dangereux,
bien sûr, pour les enfants. Il n'y a pas le même apport calorique non plus que le lait maternel. Mais, et surtout, on les a retrouvés dans des tombes d'enfants. Donc, on ne sait pas aussi si ces enfants n'étaient pas eux-mêmes malades au début, ce qui leur empêchait d'allaiter. Enfin, il y a plein de... Ça pose énormément de questions. Et moi, je trouvais que c'était effectivement de magnifiques objets, en tout cas.
À suivre, effectivement, vous pouvez voir ces biberons préhistoriques sur Internet. En tout cas, c'était publié dans la revue Nature du 26 septembre, ces biberons préhistoriques. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, elle est direction Mayotte maintenant, dans l'océan Indien, dans l'archipel des Comores, où s'est produit en juillet dernier, suite à toute une série de séisme, un phénomène rare et qui pourrait être inquiétant, la naissance d'un volcan sous-marin dont l'intense activité interroge les spécialistes, comme Stéphane Jory, géologue à l'IFREMER, que vous avez interrogé dans Science et Avenir, Carole Châtelain. Je propose d'écouter Stéphane Jory dans le journal Afrique sur RFI.
Selon nous, il est sorti au mois de juillet l'année dernière. Il a émis un volume de lave qui est quand même relativement conséquent. Ce qui est très important de comprendre dans tout ça, c'est qu'en 6 à 13 mois, en fait, ce volcan il a produit 5 km cubes de lave. Ça représente pratiquement 30% de la production de l'ensemble des rites volcaniques de la planète sur une année entière. Donc on a vraiment affaire à un événement assez exceptionnel.
Assez exceptionnel, en effet, Carole Châtelain, vous en parlez dans Science et Avenir, la naissance d'un volcan sous-marin en activité.
Oui, ça n'arrivait évidemment pas tous les jours, et au point que des missions scientifiques ont immédiatement été dépêchées sur place, et il y en a eu 4, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se produire, puisque comme le disait le chercheur...
Oui, Stéphane Jory,
qui a été interrogé par notre journaliste Sylvie Roat, eh bien c'est un phénomène tout à fait remarquable, puisqu'il y a eu un séisme de plus de 5,8 sur l'échelle de Richter, et qu'il y a eu plus de 200 secousses, donc il y a de quoi s'inquiéter, enfin les populations de la région sont évidemment inquiètes, et que c'est l'un des volcans les plus actifs qui soit actuellement, puisqu'il a pu, il fait aujourd'hui plus de 800 mètres d'altitude sous-marine.
Hein, oui, c'est ça, il n'est pas sorti.
Non, il ne sort pas de l'eau. Mmh. Mais parmi les interrogations, c'est qu'est-ce qui va se passer désormais. Alors là, les chercheurs sont assez circonspects parce qu'on connaît mal l'histoire géologique de la région. Donc il faudrait déjà la connaître un peu mieux pour pouvoir prédire l'avenir de ce volcan. Mais peut-être qu'on va en rester là. Peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir la naissance d'une île.
Et oui, c'est ça, parce que déjà, l'île de Petite Terre à côté de Mayotte, hein, Mayotte c'est Grande Terre, il y a Petite Terre, c'est enfoncé quand même de 15
Oui, alors les chiffres sont absolument, oui, 8 à 15 cm, et puis un déplacement aussi de l'île dans les mêmes proportions. Donc c'est vraiment un phénomène que les scientifiques regardent de près. Alors pas de panique, il n'est pas question d'une quelconque catastrophe naturelle, en tout cas ça n'apparaît pas dans les prévisions des scientifiques, mais il va falloir aux habitants s'habituer à la présence de ce nouveau voisin.
C'est ça, un nouveau voisin, un volcan sous-marin qui va peut-être encore...
Alors la région est volcanique, il y a beaucoup de volcans dans la région, d'ailleurs toutes les îles sont nées des volcans, donc c'est pas une surprise, hein. C'est pas une apparition. Bon, maintenant il y a des hypothèses qui s'affrontent pour savoir pourquoi, quelle est l'origine de ce phénomène, mais la population doit faire avec, si je puis dire, et d'ailleurs un concours a été lancé pour lui trouver un nom déjà.
Oui, pour l'appeler, un concours dans les écoles, hein, c'est ce que
voilà,
vous
dans les
vous
écoles,
dites
parce
aussi.
Que...
Alors quel nom pour ce volcan sous-marin.
Alors je prononce sans doute très mal les propositions qui ont été faites. Oui, du Comorien, mais il y a par exemple Bagougou, qui veut dire le monstre imaginaire, ou alors il y a Chizé Yatrumbo, qui veut dire le dernier né, et puis il y a le roi des mers aussi, qu'on dit Mfaloumé. Bon, je pense, je ne sais pas si le nom choisi sera parmi ceux que j'ai cités, mais en tout cas, libre cours à l'imagination.
À l'imagination, donc, des habitants de Mayotte, pour nommer ce volcan sous-marin qui vient d'apparaître. Pour en savoir plus sur ce volcan sous-marin en éruption dans l'océan Indien, c'est donc à lire dans Science et Avenir de ce mois d'octobre, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner. J'en profite aussi pour saluer tous nos auditeurs dans l'archipel des Comores qui nous écoutent à Moroni, à Grand Comore, sur 103 FM. On vous dédie ce très joli morceau de Nawal, Mon petit bout d'océan, sur RFI.
Titi mwishie, mwanabari mwema. te mwana bahari wangu e baneleze je mahata yangu na ye baneleze je maongo niona uboya ni mania
Mon petit bout d'océan indien dans la belle voix de la chanteuse comorienne Nawal sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans les laboratoires et jusque dans les rédactions, Alzheimer, un défi pour les chercheurs, c'est la une et le dossier de ce mois-ci dans la recherche, dossier que vous avez réalisé Mathias Germain sur cette maladie du siècle, malgré de nombreuses avancées dans la compréhension. Alzheimer tient toujours en échec médecins, biologistes, généticiens ou neurologues. Alzheimer, un défi pour les chercheurs et une souffrance pour les patients. On écoute le témoignage d'une femme atteinte d'Alzheimer sur le site de la Fondation Vaincre Alzheimer.
Je me suis rendu compte surtout que j'avais des problèmes de mémoire. Moi qui avais une très très grande... J'avais vraiment beaucoup de mémoire. J'avais appris dans ma jeunesse beaucoup de récitations, de choses que j'adorais. Et là, au stupeur, je me suis dit « mais je ne peux pas retenir, c'est pas possible, c'est une catastrophe ».
Une catastrophe pour les malades d'Alzheimer, mais également pour leurs proches. Un défi pour les chercheurs. Vous avez interrogé Mathias Germain dans la recherche, le professeur de neurologie Bruno Dubois, qui dirige à Paris le centre de recherche sur la mémoire et sur Alzheimer, et qui publie donc un livre, Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle.
La maladie du siècle, oui, parce que les prévisions sont quand même assez alarmantes. Je crois que l'OMS, alors il parle de démence neurodégénérative de manière très générale, évaluée aux alentours de 50 millions de personnes. Mmh. Et en 2050, ils estiment qu'il pourrait y avoir 150 millions. Et sur ces 150 millions de personnes, ils estiment à peu près... à 60%, on va dire, 60-70%, vraiment typiquement la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est vrai que Bruno Dubois, dans son livre, utilise un mot un peu fort, la vérité, pour expliquer simplement, je pense, le contexte un peu français qui a motivé ce dossier, c'est que l'année dernière, il y a eu un peu de polémique autour de la maladie d'Alzheimer.
Autour d'un autre ouvrage.
Voilà, d'un autre ouvrage où certains se posent des questions sur est-ce que c'est vraiment une maladie et est-ce que finalement, c'est pas simplement dû au vieillissement et après tout... C'est normal de perdre la mémoire. Et donc là, c'est un petit peu un cri d'alarme d'un clinicien qui, lui, exerce depuis on va dire, une quarantaine d'années, qui suit des malades d'Alzheimer et qui explique que pour lui, vraiment, c'est une maladie. On l'a caractérisée sur le plan biologique, sur le plan de l'imagerie et puis aussi en faisant des tests cognitifs. Alors, c'est vrai que le témoignage de cette dame est vraiment fort. Ça commence souvent comme ça, par une plainte de la mémoire. On se plaint de sa mémoire. J'ai souvenir, je crois qu'il y a une dame aussi qui parlait de... une patiente qui disait « j'ai des papillons dans la tête », pour dire un petit peu... Et donc c'est vrai que c'est un drame difficile parce qu'on sent que les personnes qui sont atteintes par cette maladie ont le sentiment que disparaît leur personnalité, leurs souvenirs, et que et qu'on est totalement impuissant face à ça.
Et que ça ne touche pas, c'est ce que rappelle le professeur, ça ne touche pas que les personnes âgées, il y a aussi des Alzheimer un peu précoces.
Tout à fait, précoces. Et d'ailleurs, le premier cas, en fait, le médecin Alois Alzheimer, d'Alzheimer il y a plus de 100 ans, en 1906. Le cas qu'il a rencontré, effectivement, c'était une femme qui était âgée d'une cinquantaine d'années et qui avait des troubles cognitifs énormes, etc. Et c'est de là qu'a démarré finalement la recherche sur cette maladie. Alors on se dit depuis 100 ans, les chercheurs s'intéressent à ça et on n'a toujours pas de traitement, on n'a toujours pas trouvé les moyens de ralentir la dégénérescence.
Et pourtant, il y a plein de pistes. Il y a quoi, des pistes de compréhension? C'est la caractériser, la définir, on la comprend mieux.
Déjà, on comprend mieux, on a identifié, on va dire, les lésions cérébrales, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones. Déjà, le lieu, on sait que la région au départ qui est touchée, c'est le lieu qui sert à la mémoire, c'est l'hippocampe. Ça commence à ce niveau-là, et ensuite ça se propage dans le cerveau. Alors qu'est-ce qui se propage? Ce sont des lésions de deux types. Il y a des lésions extérieures aux neurones qui sont ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. En fait, ce mot amyloïde vient d'une protéine qui s'appelle la protéine amyloïde, enfin le peptide amyloïde, qui est en fait une très longue protéine au départ, qui est dans la membrane du neurone. Cette protéine est coupée de manière naturelle par des enzymes et un certain nombre de petits morceaux de cette protéine acquièrent une forme pathogène, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de s'agréger, de créer des plaques, des boules, et ça va entourer les neurones et ça va perturber par exemple les synapses, les connexions. Et puis ensuite, la deuxième lésion, c'est là une autre protéine qui est plutôt à l'intérieur des neurones, qui s'appelle la protéine Tau, qui là aussi c'est une protéine tout à fait naturelle dont les neurones ont besoin pour bien fonctionner, sauf qu'elle a, par le biais de réactions chimiques, elle acquiert là aussi une forme pathogène. Et à l'intérieur des neurones même, elle fait des agrégats, des dégénérescences neurofibrillaires, le terme biologique. Et là aussi, ça provoque la mort des neurones. Donc ces deux signaux, ces deux lésions caractérisent vraiment la maladie d'Alzheimer avec le cheminement, c'est-à-dire le point de départ, l'hippocampe. Donc le professeur Bruno Dubois parle de syndrome amnésique de type hippocampique. Donc vraiment pour lui, ce qui caractérise Alzheimer, c'est ce point de départ-là. Et ensuite la propagation qui se fait.
Et par contre, alors si on comprend, on peut la caractériser, on ne sait pas vraiment, alors non seulement la soigner, mais quelle en est la cause. Et quand on lit ce dossier, on se dit c'est multifactoriel, quoi. Il n'y a pas une cause et c'est ça qui complique et complexifie encore la chose.
Exactement. Dans le dossier, j'interroge notamment un généticien parce que un des points de départ, c'était aussi la génétique. Je reviens à cette première patiente découverte par Alois Alzheimer. On sait qu'en fait, elle avait une mutation génétique sur un des gènes qui fabrique la protéine amyloïde. Et donc, quand on a cette forme-là, on sait que la maladie arrive de manière précoce et de manière quasi systématique. Mais ça représente qu'une forme très rare de la maladie, c'est pratiquement 1% des cas. Pour le reste des autres cas, c'est vraiment une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Et on a du mal à démêler le puzzle, c'est un vrai puzzle, pour savoir qu'est-ce qui provoque ça? Alors, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque. Il y a l'âge, il y a tout ce qui tourne autour du comportement, c'est-à-dire l'alimentation. C'est-à-dire, on sait que des patients qui ont un diabète de type 2, de l'obésité, la sédentarité, etc., sont des facteurs de risque. Mais après, il est difficile de dire de façon très précise. La maladie se développe parce que vous avez fait ça.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée serait peut-être de pouvoir traiter avant ou de pouvoir éviter que les symptômes ne s'aggravent. Voilà. Et c'est pour ça aussi, et ça, c'est à lire dans ce dossier de la recherche, qu'on fait appel à l'intelligence artificielle, des calculs algorithmiques pour essayer de mieux comprendre, de mieux prévenir et de pouvoir rassembler au fond tous ces facteurs.
Voilà, pour pouvoir répondre à essayer de déterminer on sait que c'est de multiples facteurs, on fait appel aujourd'hui à cette technologie qui émerge de plus en plus fortement dans plein de domaines, c'est l'intelligence artificielle, c'est essayer d'élaborer des algorithmes prédictifs. Donc il y a maintenant aujourd'hui il y a un certain nombre de laboratoires en France mais ailleurs dans le monde qui essayent de récupérer des données, puisque là l'enjeu est là, c'est d'avoir un maximum de données sur des personnes qui sont bien portantes en fait au départ. Donc il faut avoir des données sur des gens de manière très complète, des données d'imagerie cérébrale, des données sur des marqueurs dans le sang qui par exemple caractérisent les protéines dont on a parlé tout à l'heure, et puis ensuite
voir l'évolution,
sur le comportement, voir l'évolution dans le temps, et surtout avoir une masse énorme de données. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des cohortes de 200, 500, 1000 personnes, mais ça ne suffit pas pour construire des algorithmes qui soient vraiment prédictifs et qui soient fiables. Et
donc, pour pouvoir peut-être un jour, si ce n'est vaincre, en tout cas limiter cette maladie d'Alzheimer, le point en tout cas sur la recherche et les défis qui restent à relever pour les chercheurs autour de la maladie d'Alzheimer, dossier complet avec de passionnants entretiens donc, que vous avez réalisé, Mathias Germain, dans ce numéro de La Recherche dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, histoire de garder l'espoir, cet espoir qui fait vivre. Et chantez Gaëtan Roussel sur RFI, on écoute Hope. Oh
les moments, renverse les choses. Tu renverses les moments, inverse les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. La place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout.
Gaëtan Roussel sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis les laboratoires jusque dans vos rédactions. Il y a de l'espoir et des recherches à poursuivre autour de l'effet placebo. C'est le dossier et la une de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll, où l'on découvre que le placebo a vraiment des effets, qu'il soigne vraiment. Comment? Pourquoi? Il paraît même qu'il y a un labo pharmaceutique qui en fabrique des placebos. Non, ça c'est une blague, signé Jordi et Martin sur Canal Bis, à déguster tout de suite et sans ordonnance.
Bonjour. Depuis plusieurs années, les laboratoires pharmaceutiques ZEF s'efforcent de vous protéger contre les troubles de l'organisme, qu'il s'agisse de maladies orphelines et même de celles qui ont des parents. Cette année, parce que la recherche avance, les laboratoires pharmaceutiques ZEF sont fiers de vous présenter une innovation révolutionnaire, le placebo. Uniquement composé de molécules de lueur d'espoir et aux extraits naturels de bonne volonté, l'innovation placebo est faite pour vous, quels que soient vos symptômes. Mais les laboratoires ZEF vont plus loin. Pour faire face à la dure réalité de notre quotidien, nous sommes heureux de vous présenter notre gamme complète de produits placebo qui améliorera votre vie. L'important, c'est d'y croire.
L'important, c'est d'y croire à l'effet placebo. Mais le pire, ou alors le plus fort, justement, c'est que ça marche. Ah oui. Quand on y croit, ça marche, Thomas Cavaillé-Foll. Et ça, c'est le dossier, la une de Science et Vie.
C'est ça, c'est un dossier réalisé par Marie-Catherine Mera. Et ils ont tout à fait raison dans ce sketch. En fait, le placebo, c'est rien. C'est une pastille ou un comprimé avec aucun principe actif dedans. Par contre, quand on parle de l'effet placebo, ça, c'est un effet psychobiologique qui est aujourd'hui prouvé et dont on sait qu'on connaît les effets. On commence à voir même un peu la gamme de maladies dans lequel il peut jouer cet effet placebo. C'est vraiment l'esprit qui soigne le corps et ça peut aller.
C'est l'esprit qui soigne le corps, c'est ça en
l'esprit
fait.
L'esprit qui soigne le corps.
Quand
voilà.
On est convaincu que ça va nous soigner ou quand on le pense très fort, ça nous soigne.
En fait, on est toujours en train de découvrir comment cet effet placebo se met en place. Pour l'instant, on a l'impression en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est ce rituel qui est autour de la prise du médicament.
Ah.
Ça, c'est très important. Ça va être l'effet blouse blanche. Ça va être le fait, ou alors ça peut être prendre un médicament pendant un certain moment et ensuite remplacer ce médicament par un placebo, il y a un rituel qui se met en place et donc le corps va réagir de la même manière en fait. Ce rituel-là, on le sait, c'est prouvé, c'est grâce aux nouvelles technologies, il va en gros venir jouer sur notre lobe frontal, qui est un peu le préfrontal même, qui est là la connaissance de soi, un peu les fonctions supérieures du cerveau. Et à partir de là, ça va avoir un réel effet biologique. On a identifié, enfin les chercheurs ont identifié, pardon, des molécules qui sont réellement produites par le corps.
En fait, notre cerveau placebo. Ou notre corps produit des molécules qui nous soignent sous l'effet placebo, c'est ça?
Tout à fait, ouais, c'est... En fait, on le sait depuis longtemps, mais on a pu les caractériser qu'il y a peu. C'est dans les années 78, j'adore cette étude qu'il y a eu, c'est un homme qui a décidé de donner un placebo à des gens, c'était un neurologue américain, qui a donné un placebo à des gens qui venaient de subir une extraction des dents de sagesse. Sauf qu'il leur a dit c'est de la morphine, il leur a donné un placebo, et après sans leur dire, il leur a donné une substance qui bloque les récepteurs à la morphine. Et étrangement, alors qu'ils n'avaient pas une morphine, la douleur revenait, en fait, à la prise de cette substance. Donc là, en gros...
Ah oui, ça voulait dire qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué la morphine.
Ils avaient fabriqué, voilà. Alors, ce n'est pas de la morphine, enfin, comment on appelle ça, des opioïdes endogènes, c'est des endorphines, en fait.
Qu'on peut fabriquer nous-mêmes.
Et donc, la prise d'un placebo a été fabriquée chez ces personnes-là. Donc, c'est sidérant, en fait.
Et... Ah, c'est complètement sidérant. Et en plus, dans cette enquête, vous montrez que l'effet placebo, ça peut agir chez les enfants et voire même chez les animaux.
Alors,
on se dit, c'est dingue. Plus dingue.
Mais là, en fait, tout le rituel peut être aussi conservé chez les animaux et chez les enfants. En fait, le bisou magique est un placebo.
Bien sûr.
Et peut-être que devoir rassurer les parents ou les maîtres, quand c'est un chien ou un chat, peut jouer aussi sur le fait d'être rassuré. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que les chercheurs se sont rendus compte que l'émotion, un peu l'optimisme jouait dans le placebo. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus optimistes, elles sont généralement plus enclines. Il n'y a pas qu'une part génétique, une part génétique qui a été découverte, mais aussi une part d'optimisme, voilà, de personnalité qui a été parce que tout le monde n'est pas aussi sensible à cet effet placebo.
Exactement. Par contre, apparemment, c'est quand même sur la douleur que ça marcherait le mieux, cet effet placebo.
En fait, c'est ce qui a été le plus simple à étudier jusqu'ici,
c'est donc
le mécanisme là qu'on connaît le plus. Forcément, les endorphines dont on a parlé tout à l'heure sont là recrutées parce que ce sont des antidouleurs naturelles qui sont créées par le cerveau. Donc on sait effectivement que ça s'allume dans le préfrontal et que ça vient agir sur toute la totalité du système de la douleur qui est à la fois descendant vers la zone de la douleur, mais aussi les informations qui remontent de la zone de la douleur vers les endroits du cerveau qui, eux, traitent la douleur et eux, au contraire, leur activité diminue.
Ça ouvre des fenêtres considérables pour des traitements, justement. Ça montre comment on fonctionne. Parce qu'il ne suffit pas de se dire je vais bien. Enfin, la méthode Coué, ça ne marche pas. L'effet placebo, c'est autre chose.
C'est autre chose, mais c'est très difficile à contrôler. Généralement, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas sensible, mais on peut amener quelqu'un peut-être à augmenter son effet placebo un peu, ou sa sensibilité en tout cas à l'effet placebo, en mettant en place tout ce rituel, en fait, en lui expliquant. C'est ça qui est assez incroyable. C'est justement, la médecine commence à réfléchir à pouvoir intégrer l'effet placebo dans les soins, tout simplement,
De l'importance, en fait, des soins et d'être persuadé que ça va nous faire du bien.
Tout à fait, parce que ça permet par exemple aussi de réduire les effets secondaires des vrais médicaments. En fait, donc c'est une vraie question qui est en tout cas travaillée aujourd'hui. Et toute la question aussi, c'est de savoir si on a le droit de mentir aux patients, en leur disant, parce qu'on ne peut pas dire à des patients, on va vous donner de l'effet placebo. Et pourtant, il y a d'autres études qui ont prouvé que même si le patient est conscient que c'est un placebo, si on lui explique bien quel est le rôle d'un effet placebo, comment ça va marcher sur son cerveau, et bien l'effet continue.
C'est complètement hallucinant. Extraordinaire, hallucinant, passionnant dossier en tout cas sur l'effet placebo, à lire dans Science et Vie de ce mois d'octobre, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, à l'écoute de Devinez qui, placebo sur RFI.
The call to arms.
Placebo sur RFI, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Vous revenez, Cécile Estienne, dans ce numéro de Cerveau et Psycho, sur le sondage de la honte, un sondage réalisé en juin dernier autour du viol. Pour résumer, presque un Français sur deux, une femme violée y est un peu pour quelque chose, une tenue ou une attitude provocante qui dédouanerait presque les violeurs. Alors qu'est-ce que cette culture du viol et comment et pourquoi notre cerveau peut nous pousser comme ça à croire n'importe quoi? Et même Coluche, quand il, en 1979, nous racontait le viol de Monique. Accrochez-vous.
Monsieur le juge, vous faites attention à ce que vous dites. Je n'ai pas violé. Pas plus que les autres. Et puis, je vous fais remarquer que violer, c'est quand on veut pas. Moi, je voulais, moi. Et puis, après vous, la Monique, les bigoudis, le rouge à lèvres, mais ça pour effrayer les oiseaux. Non, monsieur, c'est pour attirer les garçons. Vous savez comment on l'appelle dans mon quartier? Monique, deux qui attiennent, trois qui la niquent. Alors, mais non.
Élégant, comme d'habitude, Coluche dans le viol de Monique, sketch qui illustre parfaitement cette culture du viol, ces croyances erronées en matière de viol qui persistent et que décortique dans ce numéro de Cerveau et Psycho et Cécile Estienne, le professeur de psychologie sociale Laurent Beg.
Absolument, je trouve que ce sketch de Coluche est quand même très bon, parce qu'effectivement, il pointe bien tous les stéréotypes qu'on peut avoir dans la tête. Et bon, j'espère qu'il faut comprendre que c'est juste du second degré.
C'est ça.
Voilà. Effectivement, donc il y a eu un sondage fait par Ipsos pour l'association Mémoire traumatique et victimologie qui nous avait frappé, qui avait été rendu public avant l'été. Et donc, nous avons demandé à Laurent Beck, le directeur de la Maison des sciences de l'homme à Grenoble, de revenir là-dessus pour essayer de voir, effectivement, derrière cette culture du viol, pourquoi. Parce qu'effectivement, les choses avancent au sens où les mouvements comme MeToo font bouger les choses, on n'en parle plus, etc. C'est très bien. Sauf que, quand même, effectivement, beaucoup d'idées fausses, beaucoup de croyances erronées ou de méconnaissances simplement du phénomène existent. Et pourquoi ça perdure autant? Voilà. Parce qu'effectivement, il y a 42% des Français qui pensent que lorsqu'une femme se fait violer, enfin, quand une femme se fait violer, c'est une attitude provocante, c'est de sa faute.
Et voilà. Mais c'est ça, comment on peut croire quelque chose
mais quoi, qu'est-ce qu'une attitude provocante? Ouais. Est-ce que vous avez juste parce que vous avez une jupe, parce que c'est une attitude provocante, vraiment?
Et puis, est-ce que les hommes sont aussi vulnérables
absolument,
aussi
absolument.
Que ça
Alors, dans ce sondage, d'ailleurs, on le trouve très facilement sur Internet, vous trouvez plein de choses, plein les vrais chiffres, les bons chiffres, et vous pouvez aller regarder dedans, c'est très instructif. Effectivement, aussi cette idée que je trouve moi très sexiste d'ailleurs, qui est que les hommes ne peuvent pas se retenir. Mmh. Les hommes sont des animaux en rut,
c'est ça.
Qui ne savent pas se contrôler, alors que les femmes savent. Enfin, bon, ça va dans les deux sens, hein, n'est-ce pas? Et donc, alors que effectivement, c'est un phénomène d'une ampleur vraiment importante. Mmh. On dit que l'OMS dit qu'une femme sur 10 dans le monde a été violée. Voilà. Et en France, on dit, parce qu'effectivement, les chiffres sont pas absolument certains parce que beaucoup de femmes ne parlent pas, mais et beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs, parce que ça arrive aussi aux hommes.
Oui, bien sûr.
On dit justement qu'une femme sur 6, un homme sur 20 a subi une tentative, a subi un viol ou une tentative de viol, dont 60% quand ils étaient mineurs. Hein, parce qu'une des idées fausses aussi, c'est que ça n'arrive qu'après
les
ça. Voilà, et que ça arrive dehors, dans l'espace public, alors que 90% des viols sont dans l'espace privé. Donc voilà, donc toutes ces chiffres qui existent, mais qui n'arrivent visiblement, que nous n'avons pas à retenir, qui ne rentrent pas dans la culture générale.
Pourquoi on n'arrive pas à les intégrer? Qu'est-ce qu'on dit, Laurent Beck? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les intégrer? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Enfin, même si ça bouge dans les faits, mais pourquoi ça ne bouge pas dans nos têtes, finalement?
Parce que toutes ces histoires de mythes s'auto-entretiennent. En fait, ce que les chercheurs ont montré, il y a beaucoup d'études américaines que je vais pouvoir citer là. Donc, ce n'est pas forcément exactement la même chose en France ou dans d'autres pays. Il faudrait regarder plus. Mais je pense que les tendances sont intéressantes, en tout cas. C'est que la plupart de ces mythes, de ces croyances, sont corrélées. C'est-à-dire que souvent, si vous pensez que une femme en bonne santé, elle peut toujours résister. Si elle se fait violer, c'est qu'elle a bien volé. Voilà. Vous allez aussi penser que la majorité des viols, c'est forcément des femmes qui ont des mœurs légères ou qui sont... Voilà. Et en revanche, vous direz non à la question, est-ce que n'importe qui peut se faire violer?
Ah oui, c'est ça.
C'est un ensemble de
fausses croyances, voilà, et qui nous entraîne.
Et alors, elles sont évidemment liées au genre. Les hommes y croient plus que les femmes, voilà. Mais en tout cas aux États-Unis, pas à la religion ni à l'âge, mais elles sont souvent corrélées avec d'autres types de représentations du monde ou d'autres types de croyances. Notamment, par exemple, si vous pensez qu'il y a une hiérarchisation des groupes sociaux, par exemple au hasard que les hommes sont supérieurs aux femmes, vous allez plus avoir aussi ce type de préjugés autour de la culture du viol, vous allez plus y adhérer en tout cas, bon, ce qui semble logique. Ou si, ce qui est plus étonnant, enfin, ça m'a plus étonné, si vous êtes persuadé que le monde est fondamentalement juste.
Ah oui, ça c'est très étonnant, oui. C'est que si on pense qu'il y a une justice, on ne peut pas accepter finalement idée
si
du viol.
S'il y a une justice, oui, parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que là, les choses n'arrivent pas.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Il y a toujours une raison. Donc voilà, si votre cousine ou votre voisin a un cancer, c'est peut-être parce qu'il a fumé. Mais du coup, parce que ça donne un sens au malheur qui arrive aussi, ça vous donne aussi l'illusion du contrôle. Si je mange bien, si je fais attention, si
Il
ne m'arrivera rien. Mais malheureusement, effectivement, vous pouvez diminuer vos risques. Mais il y a effectivement le risque zéro n'existe pas.
Et puis ça montre aussi que ce n'est pas toujours, entre guillemets, pour des mauvaises raisons qu'il y a cette culture du viol ou qu'on a des préjugés erronés. C'est qu'on les... Alors il y a quand même un moyen de, justement, de ne pas les cultiver ou voilà, d'arrêter ces idées erronées, ce qui serait très intéressant.
Déjà, il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut éduquer effectivement les enfants sur la question du consentement. Ah oui, je voulais citer une petite vidéo que j'aime beaucoup, qui est très connue, hein, qui est absolument virale sur Internet, vous le trouvez facilement. Vous tapez tasse de thé et consentement, ou tasse de thé et sexe, voilà, et vous avez une jolie vidéo, c'est très drôle. Vous pouvez le montrer à vos enfants, même à ces jeunes, voilà, sur est-ce que vous ne trouvez pas ridicule, en fait, de forcer quelqu'un à boire une tasse de thé juste parce que vous avez fait une tasse de thé.
D'accord.
Voilà, et vous voyez tout de suite que c'est ridicule, et ben c'est pareil avec le sexe.
Et ben voilà qui est dit, viol, le sondage de la honte et pourquoi notre cerveau peut croire n'importe quoi, puis surtout comment l'empêcher de croire n'importe quoi. Dossier à lire dans Cerveau et Psycho de ce mois d'octobre, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, on prend une grande respiration à l'écoute de RFI et du groupe Éléphant. Respire.
Respire. Respire. Si t'es blanc ou noir, si tu parles ou bas, s'il te manque une case, si tu finis pas tes phrases. Et si ta vie prend l'eau, que t'aimes pas les infos, et c'est pour toi, tout est faux, tout est relou, rien n'est beau. Parfois on se connaît, on oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien fait pour nous, on mérite, c'est tout. Parfois on se connaît, on oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien. La route est longue, que parfois tu t'effondres, que souvent t'es pas dedans, que tu dis rien, t'es fainéant. Et si tu ne crois plus en toi, t'as plus d'écran, plus de choix, plus de ruisseau, l'océan, pour une tablette de l'argent. Respire, 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 respire. Parfois on se connaît, on oublie rien, rien n'est parfait, et c'est bien fait pour nous, on mérite, c'est tout.
Avec le groupe Éléphant sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Ça fait du bien de respirer. Cécile Estienne, je reste avec vous dans Cerveau et Psycho. Respirer pour mieux penser en classe. C'est la chronique du mois de l'excellent chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud.
Je ne vous fais pas dire, Caroline, l'excellent Jean-Philippe Lachaud qui suit pour nous les découvertes de neurosciences dont on pourrait se servir à l'école. Alors, respirer pour mieux penser, peut avoir l'impression que c'est une injonction qu'on entend régulièrement en ce moment, faites du yoga, respirez, ça va vous calmer. Mais il se trouve que des neuroscientifiques, en allant regarder comment fonctionnent les neurones, ont vu qu'effectivement, il y avait bien une interaction entre la respiration et l'activité cognitive. Ils ont découvert ça chez des souris. D'accord, mais on peut se poser.
Ils sont un peu câblés comme nous quand même.
Exactement. Voilà, en fait, il s'était intéressé à des neurones d'un petit endroit du cerveau qui s'appelle le complexe Prebutzinger, qui est lié lui-même à des neurones qui contrôlent les muscles respiratoires. Voilà.
Et donc, il y a vraiment un lien direct.
Ah oui, absolument. Et en fait, ils ont inhibé ces neurones chez les souris et les souris ne sont pas mortes. Ce qui était déjà assez bien en soi, parce qu'en fait, ont-ils vu depuis, c'est que ces neurones-là, qui sont très peu nombreux, hein, ces 175 neurones dans le cerveau, sont liés à d'autres, des neurones d'une autre structure, le locus cérébellus, qui s'appelle la tache bleue, qui, elle, est responsable du passage d'un état de calme à un état de stress. Voilà. Ce qui peut être très utile quand vous êtes face à un danger, mais quand ça s'active de façon intempestive, comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté, parce que vous avez une production de noradrénaline beaucoup plus forte justement dans le contexte préfrontal, eh bien vous avez du mal à réfléchir correctement.
Absolument, quand on s'énerve et quand on stresse, et là donc il faut respirer. Et
voilà, donc si vous respirez calmement, c'est plus propice à vos activités cognitives que si vous vous activez un peu trop fort. Donc vous pouvez mettre ça en place à l'école, respirer pour avoir des élèves plus calmes, mais tous les adultes peuvent le faire.
Respirer pour mieux penser, on va y penser justement, c'est à lire dans Cerveau et Psycho. Alors respirer peut-être pour mieux penser ou pour mieux s'endormir, je ne sais pas, Carole Châtelain. Science et vie revient sur les gènes.
Science et avenir.
Oh, ben voilà, vous voyez, j'ai pas assez respiré, donc je pense mal. Donc nous sommes dans Science et avenir et nous découvrons les gènes des petits dormeurs. Ils ont une chance, sacrée chance.
Oui, là. Alors c'est le genre d'étude qui rend jaloux, puisque effectivement, il y a une classe de la population. Alors ils sont peu nombreux, hein, ils sont environ 2,5% de la population, mais qui ont la chance de dormir peu, de dormir moins de 6 heures par nuit, alors que la moyenne est plutôt à 8 heures à peu près. Mais tout ça sans conséquences négatives pour eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui non seulement dorment moins, mais récupèrent plus vite que nous, qui n'ont pas d'effet de décalage horaire, et puis qui en plus n'ont pas d'effet de vieillissement prématuré.
Ça, c'est vraiment c'est dans la construction génétique, alors, dans les gènes même.
C'est dans les gènes. Alors, c'est justement ce que vient de montrer une étude. Il y a une mutation génétique chez ces personnes-là, notamment sur un récepteur de noradrénaline, qui est l'hormone de l'éveil en quelque sorte. Donc c'est des neurones qui sont très vite excités, très vite éveillés, et se joint à ça une seconde mutation qui facilite également l'éveil. Donc on aura beau essayer de peu dormir, nous ne sommes ni Churchill ni Napoléon.
Et non, malheureusement.
Voilà, malheureusement c'est
génétique. On n'a pas les gènes qu'il faut là.
Voilà.
En tout cas, à lire pour en savoir plus dans Science et Avenir de ce mois d'octobre. Alors génétique encore avec vous, cette fois-ci on arrive dans Science et Vie. Thomas Cavaillé-Foll, avec une étrange découverte également à partir de l'analyse du gène des Européens, d'un étrange peuple fantôme dont on aurait tous plus ou moins hérité.
Exactement, on estime que 30% à peu près du génome des Européens actuels provient de ce peuple qu'on appelle les Yamnaya.
Les Yamnaya, jamais entendu jusqu'à maintenant.
En fait, vous le connaissez peut-être plus sous le nom Kourgan. Généralement, c'était l'hypothèse Kourgan qui était donnée dans les années 50.
C'est un peuple venu du Nord.
Venu de l'Est, plutôt.
Ah, de l'Est.
Oui, juste au-dessus des steppes d'Ukraine et de Russie. Un peuple qui avait domestiqué le cheval avant tout le monde et qui est arrivé en 500 ans, c'est-à-dire en commençant il y a 5000 ans, et en 500 ans, ils se sont déployés dans l'Europe et ils ont filé des gènes à tout le monde. Et
donc des envahisseurs plutôt sanglants dont on a des traces dans nos gènes.
Des traces encore très, très fortes, et d'ailleurs, ils ont même été jusqu'à quasiment supprimer les chromosomes Y qui existaient à certains endroits, comme en Espagne par exemple, c'est-à-dire que plus aucun autre homme qu'eux n'a pu se reproduire.
Eh ben dis donc, sacré Yamnayas, pour en savoir plus, c'est à lire dans Science et Vie sur cet héritage fantôme et plutôt sanglant. Mathias Germain, que tout ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la science ouverte, c'est ça, oui. Pour soutenir les objectifs de développement durable, vous avez interrogé dans la recherche Jean-Paul Moati, que nous connaissons bien sur RFI, président de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est aussi le seul chercheur français, membre du groupe d'experts scientifiques chargé
de... Sur le rapport réalisé par, à la demande de l'ONU sur fixer un certain nombre d'objectifs de développement durable à l'horizon de 2030. Et donc au cours de cet entretien, en fait, il rappelle un certain nombre de choses, notamment que éradiquer la pauvreté, c'est très important, c'est bien, mais ça ne suffit pas, qu'il faut aussi veiller à ce que les populations aient accès à l'eau, accès à l'éducation et aussi à la science. Et il fait aussi un appel aux scientifiques en disant qu'il faut aussi penser développement durable. Et lui, il parle d'une science de la durabilité, donc essayer de faire des recherches pour trouver des moyens qui nous permettent d'atteindre les objectifs de développement durable et faire face aux enjeux, notamment climatiques, qui sont face à nous.
Pour une science de la durabilité ouverte au Sud, il y aura d'ailleurs un colloque de l'IRD qui va se tenir en novembre à ce sujet à Dakar. Merci Thomas Cavaillé-Foll, merci Cécile Estienne, merci Carole Châtelain, merci Mathias Germain. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs, Science et Vie, Cerveau et Psycho, Science et Avenir et La Recherche. On peut citer aussi le numéro spécial de Science et Avenir consacré à l'intelligence artificielle, magazine dont nous avons quelques exemplaires à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur, j'en profite aussi pour vous rappeler, chers amis auditeurs et internautes, que c'est la fête de la science à partir de ce week-end à Paris et dans toutes les villes de France, avec de nombreux événements, expériences et débats à ne pas manquer. Mais nous déclinerons la semaine de la science à l'international. Ça sera du 9 au 17 novembre prochain. On vous en reparlera à ce moment-là. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster sur l'application RFI Pure Radio. Rendez-vous lundi autour de deux grands explorateurs de l'espace, l'astrophysicienne Hélène Courtois et l'astronaute Michel Tonini, pour une émission intersidérale. À la réalisation, Hugo Violas, Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez curieux.